Dans une récente chronique, je faisais allusion à l'avis lamentable de M. Raymond Le Petit, responsable de la rubrique « La solution du jeu de cette erreur » aux Échos de la Fouillouse, et à sa consoeur et co-championne en obscurantisme plumitif, Mme Geneviève Portafaux, cheftaine de la rubrique « Erratum » au réveil du Pas-de-Calais. Ancien secrétaire de rédaction dans plusieurs journaux parisiens il y a une vingtaine d'années, M. Francis Séchul de Villegoy m'écrit pour me mettre le nez dans mon inculture en matière de coquille journalistique. Savez-vous seulement d'où vient ce mot « coquille » s'enquiert-il ? Eh bien, le 19 avril 1911, dans un article du Journal officiel de la République concernant les nouvelles réglementations en vigueur dans le commerce des œufs de poule, il était stipulé que, quel que soit leur calibre, les couilles devaient être propres et exemptes de duvet au moment d'être exposées à l'étalage. Vous aurez compris que la lettre Q du mot « coquille » avait disparu au moment de l'impression du journal, ajoute mon correspondant, dont l'excellente lettre se perd un instant dans les méandres vaseux d'une regrettable grossièreté, avec digression oiseuse sur la désolation des culs oubliés sur le marbre. Toujours est-il que le mot « coquille » était né. La plus célèbre des coquilles, poursuit M. Séchul, revient à un journal de province qui publia, il n'y a pas si longtemps, un erratum relatif à un important article concernant le conflit social entre les patrons de pêche et les marins-pêcheurs de plusieurs ports de la côte atlantique. Dans son édition de la veille, ce journal avait titré « Pêcheurs de poules, c'est la trêve ». On rectifia le lendemain, en caractère encore plus gros, « Lêcheurs de moules, c'est la grève ». Que des coquilles se glissent dans les entrefilets de pêche, c'est la moindre des choses. Mais l'encyclopédique M. Séchul se souvient-il de celle énorme qu'on cite encore en exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans les meilleures écoles de journalisme? Au début de l'automne 70, un journal américain, tirant à plus d'un million d'exemplaires, avait publié une double page centrale en couleur sur le thème « Sachez reconnaître les champignons ». Il y avait 20 champignons vénéneux sur la page de gauche et 20 champignons comestibles sur la page de droite. Un grouillot prime sautier avait étourdiment interverti les légendes sous les bons et sous les mauvais. Les lecteurs survivants avaient bien ri. Dans la journée, le jeune employé de banque Christopher Graves de Tombstone, au Texas, passe aussi inaperçu qu'un homard flambé dans un restaurant du cœur. Mais que tombe la nuit, et voici qu'il se déchaîne et se métamorphose en Superman de l'inutile. Dans la nuit du 6 au 7 mai 1984, il a battu le record mondial des promenades cul par-dessus tête en réalisant 7400 galipettes sur une distance de 21 km. Dans la nuit du 9 au 10 novembre de la même année, il a parcouru 37 km avec une bouteille de lait sur la tête en 6 heures, 12 minutes, 23 secondes. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 1985, il a gobé 47 œufs durs en 2 heures, 31 minutes, 40 secondes. Dans la nuit du 4 au 5 mai dernier, enfin, il a mangé son vélo en 5 heures, 17 minutes, battant ainsi son propre record de la nuit du 2 au 3 janvier, au cours de laquelle il avait mis plus de 6 heures à bouffer celui de sa femme. Laquelle a fini par se barrer dans la nuit du 10 au 11 mai avec un grand nègre qui l'a prise 7 fois en 3 heures, 20 minutes et 52 secondes sans bouger les oreilles. Plus encore que de sexe, l'homme a besoin de se frotter à la nature. C'est au contact de la nature que j'ai toujours trouvé en moi la source de cette inspiration dont l'exquise envolée subjugue aujourd'hui la plupart de mes beaux-frères. Je vais au cœur des forêts où la biche brame quand on l'étreint. Je m'assieds au bord des routes pour voir passer le courageux hérisson crève-pneux. Et quand mes activités m'empêchent de quitter la ville, je vais flâner au Luxembourg pour écouter tousser les oiseaux. François Villon, en son temps, chantait déjà la nostalgie de la nature qui monte au cœur du citadin, enfermé dans ses murs. Onque ne vit biche au bois, onque nu faucon sur mes doigts, onque guenon ne caressois, onque, onque, onque. Ah, nature, l'écho, les cocos, l'écocologie. C'est au plus profond du maquis sarde que j'ai couché mes plus belles pages. La Sardaigne, c'est beau comme la Corse sans les Corses et sans les Parisiens. J'eus un grand choc bucolique l'été dernier à quelques lieues de Cagliari. À l'heure supportable de la tiédeur du Levant, où l'on peut encore arpenter la caillasse sans se brûler l'espadrille, j'étais allé renifler le matin sous les eucalyptus. Un berger m'est apparu au détour d'un buisson. Noir dans son coutil écorché, plié en deux sur un tabouret bas, il était en train de traire une grande brebis maigre aux yeux éteints d'agate usée, dont la laine clairsemée se hérissait de chardons mauves épilés au chemin mort. Comme il me tournait le dos, je ne voyais de cet homme éternel que la nuque de tortue craquelée sous la casquette. Il ne m'entendit pas approcher et n'interrompit pas le chant qu'il psalmodiait au rythme millénaire de ses doigts sur le pied. « We are the world, we are the children. » Eh oui, il chantait pour l'Éthiopie, et de son sabot de bois usé, frappait la cadence en se vrillant le pied de droite et de gauche, comme dans le clip vidéo.